Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez. Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint
nous.
Pédis, Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Bon, nous arrivons donc à un peu à la fin, non pas de la somme, mais de la deuxième partie de la somme théologique, prima seconde, première partie, deuxième partie. Il nous reste deux questions à couvrir, la question 113, les effets de la grâce et la justification de l'impie, et la question 114, du mérite, effet de la grâce coopérante. Donc ce sont des questions importantes, surtout la 113, pour bien faire les différences entre la doctrine catholique de la justification et la doctrine protestante de la justification. Je rappelle aussi que il y a quelques jours, donc mardi, j'ai commencé le cours sur l'exégèse, donc qui est maintenant déjà sur Internet, et donc ceux qui sont intéressés par l'exégèse des quatre évangiles. Donc il y a le premier cours qui est en audio sur Internet avec le polycopier qui correspond. Je suis actuellement, donc je viens de commencer l'introduction de ce cours. Alors, dans le polycopier, j'en suis à la page 87. Encore une fois, il y a des tas de changements au niveau des pages du polycopier, mais le texte est toujours identique. Alors, voyons un petit peu cette question 113 qui est importante. Est-ce que la justification de l'impie est la rémission des péchés ? Donc voilà ce qu'explique saint Thomas. Donc, la justification de l'impie, c'est-à-dire le passage du péché mortel à l'état de grâce. Passage du démon propriétaire de l'âme à notre Seigneur Jésus-Christ propriétaire de l'âme. C'est un peu ça. On a beaucoup de mal à voir ces choses-là parce qu'on ne les voit pas avec les yeux du corps. Donc il faut la foi. C'est comme quand on baptise, ça m'arrive régulièrement, heureusement, baptise un nouveau-né. Alors les gens sont tous en admiration. Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon, qu'il est mignon, qu'il est mignon. C'est vrai qu'il a un petit nez en trompette magnifique. Il était très mignon, mais avant le baptême, il appartient au démon. Le démon est propriétaire de l'âme du nouveau-né. Quand on lit ça aux parents, ils poussent des cris de putois, mais c'est exactement ça. Et au moment précis où le prêtre donne le baptême, parce qu'il fait couler l'eau baptismale sur le front de l'enfant en disant « Je te bénis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le démon est obligé de quitter cette âme. C'est pour ça qu'il y a dans le baptême, des exorcismes. Il y a deux exorcismes, justement, très importants à cause de ça. On exorcise quelqu'un qui est sous pouvoir du démon, on n'exorcise pas quelqu'un qui n'est pas sous pouvoir du démon. Donc c'est bien la preuve que l'enfant, avant le baptême, est sous pouvoir du démon. Eh bien, c'est pareil pour les péchés après le baptême. Lorsque je commets un péché mortel, je me remets entre les pattes du démon. Donc il faut m'en sortir. Alors, avant le péché originel, Adam et Ève avaient ce qu'on appelle le don d'intégrité. Il y avait un ordre dans leur âme. L'apparition du péché dans mon âme va introduire un désordre. La révolution, c'est ça. Révolution, c'est pas autre chose que le désordre. Révolvere, c'est tourner à l'envers. Voilà, c'est ça. Donc la justice peut être entendue, dit saint Thomas, comme produisant la rectitude de l'ordre dans les actes mêmes de l'ordre. Donc en faisant régner la rectitude de l'ordre dans nos dispositions intérieures par la soumission de la raison à Dieu, de notre appétit sensible à la raison. Donc il faut savoir que dans une âme qui est équilibrée, dans une âme qui est sous le regard du bon Dieu, qui vit sous le regard du bon Dieu, les passions de l'âme sont soumises à la volonté à l'intelligence, l'intelligence à Dieu. Bon. Ce qu'on appelle l'ordre. Le désordre, c'est quoi? Le désordre, c'est l'introduction d'un désordre, d'une désobéissance. Les passions se révoltent contre la volonté se révolte contre l'intelligence, l'intelligence contre Dieu. Donc le péché mortel, c'est ça, hein. Le péché mortel introduit, fait introduire dans l'âme une révolte contre son Créateur. Donc Saint Thomas explique bien que la justification de l'impie, c'est le passage de l'état d'injustice à l'état de justice. C'est ce que nous entendons, dit-il, par la justification de l'impie. Une telle transformation dans laquelle s'opère la rémission des péchés prend du terme, lorsque l'homme passe d'un état à l'autre, prend du terme où elle aboutit son nom de justification. Justification, ça veut dire quoi? Se rendre propice à Dieu. Oui, le péché mortel fait que Dieu n'ose même plus nous regarder, tellement notre âme est devenue laide. Et au contraire, après le passage dans la machine à laver spirituelle qui est la confession, notre âme reprend sa beauté, ou en partie, ou complètement. En partie parce qu'on n'est pas forcément tenu, on n'est pas forcément capable de récupérer, après la confession, tous les mérites qu'on a perdus par les péchés mortels antérieurs. Alors, voyons à la page 87, donc, ce que dit saint Thomas d'Aquin, cette question 113. Donc, reprenons les mêmes choses sous d'autres termes pour être sûr que vous comprenez bien. Donc, c'est la grâce qui rend l'homme digne de la vie éternelle et qui exclut le péché mortel. L'homme n'est pas capable par lui-même de se sortir du péché mortel. L'homme n'est pas capable par lui-même d'éliciter en lui un acte de contrition parfaite qui efface le péché mortel. Souvent, les gens me disent ça, je n'ai pas besoin de me confesser après un péché mortel parce que je suis capable de faire un acte de contrition parfaite, un acte de contrition parfaite efface tous les péchés. J'ai vu une chose, c'est que pour faire un acte de contrition parfaite, pour éliciter un acte de contrition parfaite, il est absolument fondamental, nécessaire, que on ait reçu cette grâce qui nous amène à cet acte de contrition parfaite. Par moi-même, je ne suis pas capable de me mettre sur le début du chemin, sinon on tombe dans le service du pélagianisme, et par moi-même, je ne suis pas capable, évidemment, d'opérer ce regret à mon cœur, ce regret surnaturel. Il ne faut pas oublier, c'est l'enseignement du catéchisme de Saint Pilice, du Concile de Trente, qu'une contrition doit être à la fois interne, surnaturelle, souveraine et suprême. Donc il faut qu'elle soit surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire une contrition surnaturelle? Ça veut dire que l'origine de la contrition doit être surnaturelle, venir de Dieu, par une grâce actuelle ou par l'augmentation de nous de la grâce sanctifiante si on est en état de grâce. Voilà pourquoi la rémission du péché ne saurait se comprendre sans l'infusion de la grâce. Il ne peut pas y avoir dans une même âme le péché mortel et la grâce sanctifiante. Alors c'est très important de comprendre ces choses-là parce que les protestants disent le contraire. Pour les protestants, le péché est toujours là. C'est ça qui est terrible. Le protestantisme entraîne une espèce de désespoir terrible. Parce que les protestants considèrent que le sang du Christ a couvert nos péchés et que donc on ne voit plus nos péchés parce qu'ils sont couverts par le sang du Christ. Donc c'est comme quelqu'un qui porte un sac à dos de 40 kilos de pierre, de cailloux. Alors, le sang du Christ a couvert tous ses péchés, ne t'inquiète pas, tout va bien, alléluia. Oui, mais ils sont toujours là. Il faut toujours les porter. Et donc, pour un protestant, les péchés ne sont pas détruits. Ils sont cachés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on cache ses péchés par notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pour un catholique, au contraire, la justification consiste, dit saint Thomas, à un passage du péché mortel à l'infusion de la grâce. La rémission du péché ne saurait se comprendre sans l'infusion de la grâce. Donc personne ne vient à Dieu par la grâce de la justification sans un mouvement de son libre arbitre. Mais attention, j'ai déjà expliqué, saint Thomas plutôt explique, qu'il appartient propre à la nature de l'âme de posséder un libre arbitre, ça c'est vrai. Mais c'est pourquoi en celui qui a l'usage de son libre arbitre, la motion de Dieu vers l'état de justice ne se produit pas sans qu'il y ait un mouvement de ce même arbitre. Mais dans le même temps où Dieu infuse le don de la grâce sanctifiante, il meut le libre arbitre à accepter ce don. Je vais éteindre mon téléphone. Je ne connais pas déranger. Alors cette phrase est très importante. J'ai déjà un peu expliqué, je crois, la dernière fois, mais il faut y revenir pour ne pas oublier. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que dit saint Thomas? Saint Thomas explique bien que la justification ne s'opérera pas sans notre libre arbitre, la participation de notre libre arbitre, ça c'est vrai, mais il dit aussi que Dieu infuse Dans le même temps où Dieu infuse le don de la grâce sanctifiante, la charité dans l'âme, il meut le libre arbitre à accepter ce don, du moins chez ceux qui sont capables de recevoir une telle motion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne peut pas mouvoir notre libre arbitre à accepter ce don de la grâce du bon Dieu sans une motion divine qui m'aide à accepter ce don. Ça, c'est une phrase très importante. Donc, je répète cette phrase. Donc, Dieu, dans le même temps où il infuse le don de la grâce sanctifiante, meut le libre arbitre à accepter ce don. Donc, un mouvement du libre arbitre selon lequel l'esprit de l'homme est mis par Dieu est nécessaire à la justification de l'impie. Alors ça, c'est très important parce qu'évidemment, c'est nié par tous les modernes. Tous les modernes, et même parfois, on entend des bêtises énormes sur ce sujet dans les milieux traditionnalistes.
Ouais. En somme, il faut avoir l'humilité de demander la grâce de l'infusion de la grâce.
Oui, et pour demander la grâce de l'infusion de la grâce, il faut déjà avoir une grâce actuelle. Parce que le seul problème, c'est que le monde moderne est imprégné de matérialisme et surtout de pélagianisme, en fait. On voit très bien chez Bergoglio à quel point il est naturaliste et pélagien, en fait. La grâce, pour lui, tout se fait par l'homme. L'homme. Satan m'a dit Dieu et Dieu. Et donc, c'est deux choses complètement différentes. Et alors, il faut faire attention parce que beaucoup de traditionnalistes vont vous dire « Ah oui, mais bon, tout ça, c'est un peu dur, ça va être trop sévère, alors moi, je préfère suivre Molina. » Parce que le moïnisme est quand même plus facile. Mais attention, la doctrine reste à la doctrine. Hein? Même si vous suivez Molina en matière de doctrine, en matière d'explication sur la grâce, ce que vous avez le droit de faire, simplement, suivre Molina dans l'explication qu'il donne d'un fait qui, lui, est de foi. Qu'est-ce qui est de foi ? Il est de foi que je ne peux pas être justifié sans la présence de la grâce sanctifiante en moi. Ça, c'est de foi catholique. Je ne peux pas me sortir du péché sans une grâce du bon Dieu, et je ne peux pas par moi-même me mettre sur le chemin de la sortie du péché sans la grâce du bon Dieu. Pourquoi ? Sinon, c'est du pélagianisme, et le pélagianisme est condamné par l'Église pour tout le monde, y compris pour saint Thomas et pour Molina. Donc faire attention parce qu'il y a des petits malins qui justement se cachent derrière Molina pour dire on est libre de suivre ce qu'on veut en matière de grâce parce que saint Thomas est trop strict parce qu'il suit saint Augustin. Saint Augustin, vous comprenez, c'était le 4e siècle. À l'époque, ils n'avaient pas encore les téléphones portables et Internet. Alors saint Thomas n'était pas très au courant des progrès qui allaient arriver en matière de grâce. Non, l'enseignement de saint Thomas sur la grâce et celui de saint Augustin, bon, il est un peu plus explicité, c'est vrai, mais les choses n'ont pas changé. Donc je vous répète cette phrase qui, à mon avis, est très très importante. Il y a une phrase qui résume en quelque sorte tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur la grâce, c'est celle-ci. Dans le même temps où Dieu infuse le don de la grâce sanctifiante, il meut le libre arbitre à accepter ce don. Qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que par moi-même, je ne suis pas capable de me justifier moi-même. Le protestant va dire au contraire, je me justifie par mes propres forces en croyant que Dieu est mort pour moi sur la croix. La foi, ça ne sert à rien sans la charité. Et rappelez-vous, la foi, je crois que c'est dans Saint-Jacques qui dit « le démon croit et tremble ». Bon, le démon est la foi. C'est une foi qui n'est pas vivifiée par la charité, une foi informe, mais il croit. Bon, au démon, s'il croit à l'enfer, s'il croit à la Sainte Eucharistie, s'il croit au baptême, il croit en tout ça. Hein? Donc, il est évident que cette charité dont saint Thomas parle va travailler sur une foi préexistante. Bon, heureusement, la foi n'est pas détruite par le péché mortel. La foi et l'espérance demeurent, pas la charité. Quand on commet, avant de commettre un péché mortel, on a en nous la foi, l'espérance et la charité si je suis en état de grâce. Si je commets un péché mortel, je perds la charité, mais pas la foi et l'espérance. Cependant, si je reste en état de péché mortel pendant longtemps, ma foi et mon espérance vont finir par s'altérer, pour devenir de plus en plus faibles, et un jour, peuvent même disparaître. Surtout si ce sont des péchés contre l'espérance et contre la foi.
Est-ce que Jésus-Christ avait la foi et l'espérance, du coup ?
En soi, non, il n'y a pas besoin, puisqu'il était Dieu. C'est comme les élus du ciel. Les élus du ciel n'ont pas besoin de foi et d'espérance, puisqu'ils voient Dieu. On croit, on a besoin de foi pour croire quelque chose qu'on ne voit pas. On a besoin d'espérance pour espérer quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas encore. Et la justification de l'impie requiert donc un mouvement par lequel l'esprit est tourné vers Dieu, Et la première conversion vers Dieu se fait par la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit évidemment croire qu'il existe. Si je ne crois pas en Dieu, comment voulez-vous que je demande pardon au bon Dieu si je ne crois pas? D'ailleurs, intéressant de prendre ça à l'envers. Si tous les modernes, le gouvernement qui nous persécute là, ici en France, est tellement opposé à Dieu, c'est pour au moins une chose, c'est qu'ils y croient. Ils croient que Dieu existe. Sinon, ils ne seraient pas toujours en train de persécuter l'Église catholique. S'ils ne croyaient pas que Dieu exista, ils se diraient, oh, c'est moi, je pense ce qu'ils veulent, ces imbéciles de catholiques, de toute façon, Dieu n'existe pas. Mais s'ils sont tellement haineux à l'égard du catholicisme, c'est précisément parce qu'en fait, quand ils croient que notre Seigneur Jésus-Christ existe, ils le refusent, mais qu'ils refusent sciemment de se soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, saint Thomas conclut, le mouvement de la foi est donc nécessaire au salut, nécessaire à la justification. Alors, complétons rapidement ce qui n'est pas sur le cours, sur le polycopier, puisque le polycopier va reprendre en page 88 avec l'article 9 de la question 113. Donc, je voudrais rapidement revoir les choses importantes des autres articles. Article 2 de la question 113, pour la rémission des péchés, faut-il la fusion de la grâce? La réponse est évidemment oui. Parce que nos péchés nous seront mis quand Dieu est en paix avec nous à cause de l'affection qu'il nous porte et à cause de l'affection qu'on lui porte. Donc la grâce même, c'est la grâce même qui nous rend dignes de la vie éternelle. La rémission de ce péché ne se conçoit donc pas sans la réinfusion de la grâce. Donc l'amour de Dieu pour l'homme consiste dans le don de la grâce sanctifiante qui les efface. Donc son amour du bon Dieu, sans l'infusion de la grâce, il ne peut y avoir de rémission des péchés. C'est absolument impossible. Alors, par la rémission des péchés, la charité revient illuminer notre âme. Le mouvement de la foi n'est donc parfait que s'il est informé par la charité. C'est pour ça qu'on appelle une foi qui est vivifiée par la charité une foi formée. Et une foi qui a perdu la charité, on va appeler cette foi une foi informe. Donc, dans la justification de l'impie, en même temps qu'un mouvement de foi, il y a aussi un mouvement de charité. Donc, on ne peut pas se confesser, si vous voulez, sans avoir la foi, c'est impossible. Parce que pour se confesser, il faut faire un acte de foi, d'abord en pouvoir, je crois que Dieu a le pouvoir de me pardonner mes péchés, primo, secondo, de dire, ce prêtre à qui je vais aller me confesser a reçu de Dieu le pouvoir de me pardonner mes péchés. Voilà ce que dit saint Thomas. Par la connaissance naturelle, l'homme ne se tourne pas vers Dieu comme vers l'objet de sa béatitude. Et la cause de sa justification, une telle connaissance ne suffit donc pas à justifier l'homme. Quand au don de sagesse, il présuppose la connaissance de foi, car c'est une impiété d'attendre de Dieu une moitié de pardon. Ça c'est très important. Les protestants croient une moitié de pardon. Je suis pardonné par la foi, mais les péchés sont toujours là. Le catholique dit, je suis pardonné par la charité, et les péchés ont disparu. Souvent, les gens disent, mais monsieur l'abbé, j'ai fait des vertes et des pas mûres dans mon passé, est-ce que c'est vraiment parti? Ben oui. Mais les péchés ne sont plus là parce qu'ils ont été effacés par le bon Dieu. Ah, mais ils s'en rappellent. Non. Lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Formule très belle. Lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Et c'est exactement ça. D'accord? Alors, progressons un petit peu. Donc, faut-il le concours de libre arbitre dans la justification de l'impie? On a déjà répondu à cette question en fait. La participation, le concours du libre arbitre est nécessaire. Sans oublier bien sûr que ce libre arbitre est mu par Dieu. D'accord? C'est intéressant quand on étudie un peu ces articles-là de voir que saint Thomas d'Aquin répète très souvent les mêmes choses, sous différentes formes. Alors, il y a des gens qui me disent que je répète toujours les mêmes choses à mes cours. C'est vrai, mais je persiste et signe que cette répétition est nécessaire. Une des clés de l'enseignement, surtout en théologie, c'est la répétition. Sous forme, on peut changer la façon d'expliquer les choses, mais il faut répéter les choses pour que ça rentre. On dit en matière d'éducation qu'il faut répéter 70 fois une chose à un enfant, que ça rentre, ça passe dans sa cervelle. D'accord? Donc, le concours du libre arbitre est nécessaire à la justification de l'impie. Nul ne vient à Dieu par la grâce sanctifiante sans un mouvement du libre arbitre, mu par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui justifie, c'est pas nous. L'impulsion divine vers la justice ne s'accomplit donc pas sans notre consentement. Lorsque Dieu communique la grâce sanctifiante à un homme, Il fait donc mouvoir son libre arbitre pour qu'il accepte le don. Donc c'est Dieu qui intervient pour pousser le libre arbitre à accepter la grâce divine. Alors, dans les cas des enfants, des aliénés, s'il y a des gens qui n'ont pas l'usage de raison, incapables donc de tout acte de libre arbitre, la grâce peut être donnée par le Christ sans leur concours. C'est le cas par exemple d'un baptême sur un nouveau-né. Il n'y a pas le concours du libre arbitre de la personne, puisque l'enfant nouveau-né n'a pas encore l'exercice de son libre arbitre. C'est un peu une exception. D'accord ? Alors, autre article, je vais un peu vite parce que c'est des choses qu'on a déjà expliquées au moins en partie. La justification de l'impie exige-t-elle nécessairement la foi ? Alors, oui, parce qu'on a expliqué que la justification de l'impie, c'est la grâce sanctifiante, et cette grâce sanctifiante ne peut exister sans la foi. La foi et l'espérance peuvent exister sans la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. La foi est donc requise pour la justification de l'impie. Donc la foi n'étant parfaite que par son union avec la charité, la justification de l'impie suppose en même temps la foi et la charité. La connaissance naturelle que les hommes ont de Dieu ne suffit pas. Là, on est au niveau surnaturel, il faut dépasser le niveau naturel, et pour avoir en nous, garder en nous, la foi, l'espérance et la charité. La foi et l'espérance sont en principe toujours là pour un chrétien, la charité n'est là que si je suis en état de grâce. Cependant, il peut arriver, après un certain temps, surtout quand les gens multiplient les péchés contre la foi, on finit par perdre la foi, là, ça je l'ai vu malheureusement. Et une fois que la foi est perdue, alors là, il n'y a plus rien à faire. Pour retrouver la foi dans quelqu'un qui a perdu la foi, alors là, il faut vraiment un miracle du bon Dieu. Pareil pour l'espérance. Quelqu'un qui a perdu l'espérance, donc il est incapable d'avoir la charité, il ne peut plus avoir l'état de grâce, parce que les fondations de l'état de grâce ne sont plus là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi et l'espérance sont les fondations nécessaires pour bâtir l'édifice spirituel. L'édifice spirituel, c'est quoi? La maison qu'on construit, c'est la charité. Cette charité ne peut pas être construite s'il n'y a pas un roc sur lequel la maison est construite. Si on construit sur le sable, il n'y a rien qui tient. Donc ce roc sur lequel la maison est construite, ce roc, c'est la foi et l'espérance. Les deux choses en même temps. Alors, article 5 de la question 113, la justification de l'impie exige-t-elle l'acte du libre arbitre contre le péché? Oui, on voit très bien qu'il avance progressivement, mais saint Thomas, c'est ça qui est magnifique, quand il explique, il revient toujours d'abord sur ce qu'il vient d'expliquer, pour être sûr que c'est considéré comme reçu. C'est comme les tuiles qui se recouvrent les unes les autres. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il part d'abord de ce qui a déjà été posé, ensuite il recouvre ce qui a été posé et va un peu plus loin. Puis il revient un peu en arrière, va un peu plus loin, revient un peu en arrière, va un peu plus loin. C'est la loi du 2 moins 1 égale à 1. C'est comme ça qu'il progresse. Il fait très attention de ne pas aller trop vite parce que sinon les gens décrochent. N'oublions pas que dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, on l'a vu au début, la somme a été écrite pour les débutants. Bon, les débutants du Moyen-Âge qui correspondent aujourd'hui à peu près à des docteurs en théologie. D'accord? Alors, si, voilà ce que dit saint Thomas, si la justification est un mouvement de Dieu que Dieu imprime à l'âme humaine, pour la faire passer de l'état de péché à l'état de grâce, le libre arbitre de l'âme est par rapport à ces deux extrêmes comme étant un corps en mouvement par rapport à deux points opposés. Donc il faut que le pont entre les deux choses, entre Dieu et nous, soit fait en partie par le libre arbitre. Alors, donc il faut donc la foi et l'espérance. Le libre arbitre ne peut pas progresser pour préparer l'arrivée de la charité, justement sans l'existence préalable de la foi et de la charité. Il faut un minimum de connaissances surnaturelles. C'est pour ça que on n'a pas le droit, un prêtre n'a pas le droit de donner l'absolution à quelqu'un qui n'a pas le minimum de connaissances de foi. Sauf, exception, c'est le cas de danger de mort. Mais quand le bon Dieu, quand le prêtre qui confesse se rend compte que la personne qui confesse, une personne nouvelle qui ne connaît pas, n'a pas le minimum de connaissances nécessaires, il ne doit pas lui donner l'absolution. D'abord, il doit lui faire un minimum de catéchisme. Bon, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va passer un peu plus de temps avec cette personne pour lui expliquer au moins le minimum. Voilà ce que dit ici le père Le Breton. Il dit qu'il n'est pas nécessaire que cette foi soit explicite en tout. Mais il y a sans doute nécessité de croire explicitement qu'il y a un Dieu souverain, Seigneur de toutes choses, et qu'il récompense ce qu'il cherche. La foi explicite au mystère de la Sainte Trinité, l'incarnation, est encore nécessaire au salut. D'accord? Il faut au minimum savoir qu'il y a Dieu en trois personnes, Sainte Trinité. Bon, que ce Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris chair, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sein de notre Sainte Vierge Marie, l'incarnation, et que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, est mort sur la croix le troisième jour, et pour prouver sa divinité, ressuscite le troisième jour. Bon, c'est vraiment le minimum, le béaba, tu vois, sans ça, on ne peut rien faire. D'accord ? Alors, ce que dit saint Thomas, à mesure que l'âme donc s'éloigne du péché par un mouvement volontaire, elle s'approche de la justice, le système des vases communicants. Plus on augmente l'amour du bon Dieu, plus on augmente aussi la détestation du péché. Plus le péché disparaît dans mon âme, plus l'amour du bon Dieu prend de la place, peut prendre de la place dans mon âme. Qui dit justice dominum, audite malum. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Donc je ne peux pas prétendre aimer le Seigneur sans détester le mal. Pas possible. C'est comme quelqu'un qui me dirait moi j'aime bien le bon Dieu, mais j'ai volé 1000 euros, mais je les garde. Ben non, c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie. D'accord ? Donc, voilà ce que dit saint Thomas. À mesure que l'âme s'éloigne du péché par un mouvement volontaire, elle s'approche de la justice. Or, qu'est-ce que cet éloignement, ce rapprochement pour une âme douée de libre arbitre, si ce n'est la détestation et le désir ? Un double mouvement du libre arbitre, donc, est nécessaire, qui tend vers la justice de Dieu par le désir, qui s'éloigne du péché par la détestation. Donc, le libre arbitre doit me permettre à la fois d'augmenter le regret de ma faute, d'une part, et d'autre part, d'ouvrir la porte suffisamment large pour que Dieu puisse y rentrer. Voilà. Sans oublier, encore une fois, que ce libre arbitre est mû par Dieu, et que sans sa grâce de préparation, sa grâce prévenante, je ne peux pas ouvrir la porte. Dans le temps qui précède la justification, il faut donc que l'homme déteste tous les péchés qu'il a commis dont il se souvient. Surtout dans les cas de danger de mort, on n'a pas le temps souvent de faire des confessions générales, souvent les gens ne sont plus en état. Mais si on arrive à obtenir un regret général de tous les péchés, est-ce que vous regrettez tous les péchés de votre vie passée ? Oui. Est-ce que vous êtes bien décidé, avec la grâce du bon Dieu, si vous vous en sortez, que vous ne mourrez pas, de changer de vie complètement ? Oui. On peut donner la solution. Bon, bien sûr, les gens peuvent me raconter des bêtises, mais en général, quand ils ont un pied de l'autre côté, déjà, ils font un peu attention à ce qu'ils disent. D'accord ? Article 6. Donc on avance. La rémission des péchés fait-elle partie des choses requises pour la justification de l'impie ? Bon, la réponse est évidente. On ne peut pas être justifié sans avoir remis, que Dieu ait remis nos péchés, c'est impossible. D'accord ? Dans la justification de l'impie, la rémission des péchés est la fin. L'impie est justifié par la rémission des péchés. Donc le fruit de tous ces maux sera la rémission de ses péchés. Donc, alors, ça c'est important, donc c'est en bas de la page 87 sur le polycopier. Donc, il faut donc, la phrase que je viens de citer, en bas de la page 87, il faut donc que dans la justification de l'impie, il y a un double mouvement du libre arbitre, l'un de désir par lequel il tend vers la justice de Dieu, l'autre de détestation du péché. D'accord ? Alors, ici, une partie très importante, article 6. Donc, quatre choses, dit saint Thomas, sont requises pour la justification de l'impie. L'infusion de la grâce, le mouvement du libre arbitre vers Dieu par la foi, le mouvement du libre arbitre contre le péché par la détestation, rémission du péché. Donc, quatre choses. Première chose, infusion de la grâce, parce que sans la grâce du bon Dieu, je ne peux rien faire, au moins des grâces actuelles. Deuxième, de par cette infusion de la grâce, je vais pouvoir utiliser mon libre arbitre pour remonter vers Dieu par la foi. Deuxième étape. Troisième étape, j'utilise mon libre arbitre pour détester le péché que j'ai commis. Troisièmement, rémission des péchés. Vous voyez, donc il y a quatre étapes. Bon, on exprime ces étapes de cette façon, de façon didactique, pour expliquer les choses. Il est évident que les quatre choses doivent être faites en même temps, que le bon Dieu fait les quatre choses en même temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand le bon Dieu, par exemple, par l'absolution sacerdotale, dit au pécheur, je t'absous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, à la fois, il y a l'infusion de la grâce, mouvement du libre arbitre vers Dieu, mouvement du libre arbitre contre le péché, rémission des péchés. Les quatre choses. D'accord ? Alors, attention, le mouvement du libre arbitre qui concourt à la justification est méritoire, il faut donc qu'il procède de la grâce. Sans la grâce de Dieu, je ne peux pas faire gagner quelque chose de méritoire. C'est impossible. Il ne faut pas oublier ça. Je ne peux acquérir aucun mérite surnaturel pour mon salut si je ne suis pas en état de grâce. Donc la condition pour pouvoir avoir des mérites surnaturels, c'est d'abord d'être en état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, eh bien je ne peux rien faire. Donc la justification, dit saint Thomas, est un mouvement par lequel Dieu fait passer l'âme de l'état de péché à l'état de justice. Donc on passe de rien à tout. Donc d'une âme complètement vide à une âme complètement pleine. Donc l'impulsion du moteur, dit saint Thomas, dans la justification de l'impie, c'est l'infusion de la grâce. Le mouvement du mobile, c'est celui du libre arbitre allant au point de départ, du point de départ au point d'arrivée. La consommation, c'est l'arrivée même du mouvement à son terme. C'est quoi ce passage du libre arbitre du point de départ au point d'arrivée? C'est le passage du libre arbitre de l'amour de Dieu qui commence à poindre dans son âme et qui va entraîner la détestation du péché commis. Sans détestation du péché commis, je ne peux pas obtenir la grâce du bon Dieu, c'est impossible. Donc il faut bien se rappeler ces quatre choses. Infusion de la grâce, qui permet le mouvement du libre-arbitre vers Dieu, ça c'est la foi. Troisièmement, le mouvement du libre-arbitre contre le péché, la détestation du péché commis, et enfin la rémission de la faute. Alors, septième article, posons-nous la question. La justification de l'impie est-elle instantanée ou successive? Eh bien, voilà ce que répond saint Thomas. La justification est l'infusion même de la grâce qui meut le libre arbitre et remet la faute. Il a déjà dit trois ou quatre fois, mais il répète. Parce qu'il sait que ces répétitions sont nécessaires. Donc quand je répète, je me contente de suivre en fait la théologie de saint Thomas d'Aquin, la façon de procéder de saint Thomas d'Aquin. Donc il n'est pas nécessaire que la justification de l'impie s'accomplisse par degrés successifs. L'infusion de la grâce se produit toujours en un seul instant. C'est-à-dire, il y a un moment, si vous êtes d'un seul coup, l'âme était en état de péché mortel. L'âme se retrouve en état de grâce, la porte vient de s'ouvrir, le bon Dieu, le démon vient de quitter l'âme, et en même temps, le bon Dieu rentre dans cette âme en roi, et en si vous voulez, en sauveur. Tout ça se fait en même temps. Donc se fait en même temps l'infusion de la grâce, le mouvement du libre arbitre vers Dieu, le mouvement du libre arbitre contre le péché, et la rémission de la faute. Donc le libre arbitre qui concourt à la justification peut par un seul et même acte s'élever vers Dieu et détester le péché. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas obtenir le pardon des péchés sans à la fois aimer le bon Dieu, croire en Dieu d'abord, première étape, aimer le bon Dieu, deuxième étape, et détester le péché. Parce que je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je ne déteste pas le péché. Alors c'est très important avec le monde moderne, parce que les modernes, c'est ça. Moi j'aime beaucoup le bon Dieu. Je vis avec la femme de mon voisin, mais j'aime beaucoup le bon Dieu. Non mais attendez. Vous ne pouvez pas prétendre aimer le bon Dieu si vous vivez avec la femme de votre voisin. Ah mais bon Dieu, Dieu, ce que l'on dit tout le temps, Dieu est amour, quand tu parles. Alors parce que Dieu est amour, ça veut dire que c'est une bonne poire qui va tout laisser faire. Ça, c'est capital, c'est même le problème numéro un qu'on a pour les conversions, dans les cas de conversion avec des vies très difficiles avant la conversion, et des gens qui sont déjà mariés légitimement. Alors, je voudrais faire une conversion générale de toute ma vie. Très bien. Vous aider, donner un bon examen de conscience, je prie pour vous, on va préparer un peu ça, je vais entendre votre confession. Mais quand les gens arrivent comme ça, que je ne connais pas, ça arrive régulièrement. Il y a encore un rendez-vous samedi, une personne que je ne connais pas qui m'a téléphoné, monsieur l'abbé, je voudrais faire une confession générale. Voilà, j'écoute votre site depuis longtemps, j'ai besoin de faire une bonne confession générale, est-ce que je peux venir? On prie rendez-vous, bon, il va venir pour faire sa confession générale. Très bien, moi je ne connais pas cette personne. Quand cette personne me demande au téléphone, en général, je ne pose pas trop de questions au téléphone parce que c'est un peu délicat. Bon. Mais il est évident que quand cette personne va vouloir se confesser, va venir se confesser pour faire sa confession générale, il va bien falloir que je pose une question. Je suis obligé de la poser cette question avant de donner absolution. La question c'est quoi? Quel est votre état de vie? Est-ce que vous êtes célibataire ou marié? Bon, moi, je suis marié. Est-ce que vous vivez seul ou vivez avec votre épouse? Oui. Est-ce que c'est votre épouse légitime? Oui, pas trop, enfin un peu quoi, il n'y a pas comme ça, hein. Un peu, pas tout à fait légitime, bon, pourquoi, c'est celle des voisins, oui, elle est divorcée. Est-ce qu'elle était baptisée? Oui. Est-ce qu'elle était mariée devant Dieu, avec l'autre? Oui, monsieur, c'est pas possible, je ne peux pas vous donner l'absolution.
Ou alors il faut qu'il y en ait un des deux qui soit mort, non?
Ah, c'est autre chose,
voilà.
Si un des deux est mort, à ce moment, elle n'est plus mariée.
Ah, voilà, ok, d'accord.
Le mariage, contrairement au sacerdoce, c'est tant que la personne est en vie.
Okay.
Je l'aime, on s'aime, nous nous aimons jusqu'à la mort. À partir du moment où cette personne, une des deux personnes meurt, il n'y a plus de lien matrimonial. Le lien matrimonial disparaît.
Il ne faut pas qu'il aille zigouiller le...
Ah ben ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a un empêchement de mariage qui consiste justement à bien expliquer, qui consiste à refuser de marier, c'est l'empêchement de crime. Des gens qui, pour régler les choses, sont allés tranquillement assassiner le voisin, la femme légitime, pour pouvoir se marier avec la femme illégitime. À ce moment-là, il y a une interdiction de se marier. Allez, donc ça c'est très important à comprendre. C'est malheureusement le cas le plus difficile. Et donc, dans des cas comme ça de conversion, il y a deux problèmes, deux situations possibles. Première situation, il n'y a pas de problème antérieur de mariage antérieur. Alors, c'est le cas des personnes, heureusement, il y en a quand même pas mal. C'est le ben voilà, on vit depuis 15 ans ensemble, on a deux enfants, on voudrait régulariser notre situation. Très bien, confession d'abord. On prépare une bonne confession, éventuellement, dans bien des cas, commencer par un peu de catéchisme, pour que les gens aient un niveau minimal. Et ensuite, avant de les confesser, je suis obligé de poser la question. Bon, est-ce que vous avez déjà été marié auparavant, civilement ou civilement religieusement, dans la religion catholique ou dans une autre religion, avec une autre personne avant d'être marié avec cette personne civilement? Ah non, il y a qu'elle. Et elle, est-ce qu'elle a déjà été mariée auparavant quelqu'un d'autre? Ben non, jamais. Bon, à ce moment-là, c'est facile à régler. On obtient une bonne, il faut pousser la contrition, obtenir une bonne confession, on donne l'absolution, et ensuite on régularise la situation, c'est facile. Malheureusement, dans des cas, c'est pas si simple que ça, parce que les personnes sont déjà mariées. Alors, c'est le cas aussi de plus en plus avec les gens, des tas de problèmes comme ça, avec les gens qui viennent à nous, et qui viennent par exemple de la Fraternité Saint-Pélis. De plus en plus maintenant, ces gens qui viennent de la Fraternité Saint-Pélis ont reçu de la Fraternité Saint-Pélis une annulation de mariage. Or, l'annulation de mariage, c'est de la bouillie pour char. Hein. Il n'y a pas d'annulation de mariage. Hein. C'est le dogme catholique qui dit bien qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Donc Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage légitime. Et 99% des gens qui se marient, quand ils se marient avec les intentions traditionnelles. Je l'aime, on s'aime, nous nous aimons, on veut se marier pour toute la vie, oh, bien sûr, toute la vie, pas de problème. Donc, unité, indissolubilité, toute la vie, unité, il n'y a qu'elle, je ne fais pas rentrer une deuxième personne dans l'histoire, il n'y a qu'elle et moi, c'est tout, et on va accepter les enfants. Trois conditions sont là, le mariage est valide. Aucune autorité au monde ne peut faire que ce mariage entre deux chrétiens qui est valide, qu'on appelle un mariage consommé et ratifié, ne puisse être dissous par aucune autorité. Aucune autorité ne peut dissoudre ce mariage. Ni une autorité sur terre, ni même Dieu lui-même. Alors après, quand la fraternité, les prêtres de la fraternité, la bouche en cœur viennent nous dire « Ah oui, mais vous comprenez, le conseil du mariage des canonistes dans la fraternité a déclaré que ces personnes pouvaient être démariées parce que, vous comprenez, manquaient une condition au début, au moment du mariage, le mariage légitime antécédent. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi.
J'ai une question, parce que dans l'Ancien Testament, il est permis de divorcer ou de répudier sa femme.
Répudier sa femme, c'est autre chose.
C'est pas pareil que le divorce.
C'est pas pareil, c'est une répudiation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un cas d'adultère, entre autres, l'homme ou la femme pouvait répudier leur épouse. Bon, mais ils étaient toujours mariés.
Ah.
Donc ils pouvaient se répudier mutuellement. C'est-à-dire que l'homme disait, par exemple, l'homme, sa femme a été infidèle, l'homme peut la répudier. Et c'est valable toujours aujourd'hui d'ailleurs. Un homme, une femme par exemple, qui dit, monsieur l'abbé, mon mari est infidèle. Bon, en compte qu'il est infidèle, il me roule dans la farine, il a une maîtresse quelque part. Est-ce que je suis obligé de rester avec lui? Non. Est-ce qu'il est mieux que je reste avec lui? Là, il faut voir en fonction des cas, des circonstances, des enfants et tout. Est-ce que vous espérez, par votre prudence, par votre charité, par votre gentillesse, arriver à la ramener complètement vers vous, le ramener vers Dieu par la même occasion, et ce qui coupe complètement cette personne, avec cette personne? Ben oui, je pense que ça va être possible. À ce moment-là, il vaut mieux rester. Mais c'est souvent le cas, malheureusement, j'ai connu plusieurs cas comme ça, de gens qui ont une espèce de double vie. Entre autres, c'était très, très grave dans les cas de gens qui ont déjà un niveau, si vous voulez, intellectuel, un niveau social assez élevé, qui, par exemple, sur la société, ils doivent énormément voyager. Et très souvent, ben, pas très souvent, pardon, ne se passe pas très souvent, non, mais dans certains cas, eh bien, la personne gardait une autre personne ailleurs. La femme ne savait pas. Il est évident que si un jour elle le découvre, il doit arrêter. Hein. Le mari doit arrêter ça. S'il ne veut pas arrêter, et parfois des cas malheureusement, ils vont jusqu'à là où le mari dit, oh, mais écoute, moi je t'aime bien, mais je garde le droit d'avoir une maîtresse quelque part. À ce moment-là, il vaut mieux vous séparer. Une femme ne peut pas accepter une chose pareille. D'accord ? Après, il faut voir un petit peu cas par cas quelle est prudentiellement la meilleure solution à choisir. C'est là où le don de sagesse intervient. D'accord ? Alors, on avance. Donc, article 8 de la question 113. L'infusion de la grâce était naturellement la première des conditions requises pour la justification. Et on voit très bien qu'il progresse à chaque fois un peu, mais à chaque fois, il revient un peu en arrière quand même pour être sûr qu'on ait compris. Et là, vous voyez, quand on l'article 8, on reprend, je peux vous relire le corps de l'article 8, parce que dit saint Thomas, puisque la justification n'est pas successive, les quatre choses qui lui sont nécessaires existent en même temps, mais logiquement, l'une est antérieure à l'autre. Première est l'infusion de la grâce, la seconde le mouvement du libre arbitre vers Dieu, le troisième le mouvement du libre arbitre contre le péché, quatrième enfin la rémission du péché. Et M. Lamé vient de le dire. Oui, exact, il répète. Pourquoi ? Ben, parce qu'il est comme l'abbé Lafitte, plus exactement l'abbé Lafitte est comme saint Thomas, il sait qu'il faut répéter les choses. Moi, je dis souvent cet exemple pour expliquer que saint Thomas répète. Il faut répéter les mêmes choses, mais avec parfois des termes un peu différents pour que les gens comprennent. Donc, dans la justification, c'est l'infusion de la grâce donc, qui permet la rémission des péchés. Parce que l'infusion de la grâce va permettre le mouvement du libre arbitre vers Dieu et le mouvement du libre arbitre contre le péché. Sans l'infusion de la grâce, ce n'est pas possible. Donc pourquoi ? Parce que ce mouvement du libre arbitre, dit saint Thomas, procède de la grâce sanctifiante. Donc, il y a un exemple ici qui est donné par le père Le Breton, la petite somme théologique que je suis pour préparer ce cours, qui dit... Quand nous donnons l'antériorité de la fusion de la grâce, nous considérons la justification du côté de Dieu, car si nous l'envisageons dans le pécheur, il faudrait dire que la rémission des péchés est antérieure à la réception de la grâce. Mais ces deux choses sont simultanées. De la part du soleil, qui chasse les ténèbres par sa clarté, la production de la lumière est le premier effet, la fuite des ténèbres le second. Tandis que de la part de l'air, qui est illuminé par le soleil, la première chose est d'être délivré des ténèbres, la seconde de recevoir la lumière. Donc qu'est-ce qui est important ? Une pièce est dans l'obscurité totale. On ouvre les volets. C'est la lumière qui rentre d'abord ou l'obscurité qui part. En fait, c'est deux choses qui se passent, qui sont simultanées. Et c'est exactement la même chose. Dieu rentre dans une âme qui déteste le péché. Qu'est-ce qui est plus important ? Ben les deux. Vous ne pouvez pas détester les péchés sans l'amour du bon, l'entrée de votre bon Dieu dans votre âme, par sa grâce. Et l'entrée de la grâce n'est pas possible pour Dieu dans mon âme sans la détestation du péché. Donc il faut les deux choses.
Et j'ai une question. Et si on change de vie ? Donc, ouais. Mais qu'au fond de soi, on aime encore un peu un péché particulier.
Ah ben, c'est autre chose.
Mais qu'on a changé de vie parce que...
Ben, à ce moment-là, c'est comme, je vous donne un exemple tout simple, c'est comme quelqu'un qui me dit, moi j'aime beaucoup de caramel mou, je raffole. Bon, mais j'en mangeais 3 kilos par jour, donc j'ai arrêté parce que c'était pas bon pour la santé. Bon, monsieur l'abbé, j'ai arrêté de manger 3 kilos de caramel mou tous les matins. Mais monsieur l'abbé, je rêve la nuit. Bon, j'y pense tout le temps, ah, caramel mou. Quand je pouvais avoir mes 3 kilos de caramel mou tous les jours, c'était génial, magnifique, extraordinaire. C'est un péché. Bien sûr que non. Hein? C'est comme quelqu'un, si vous voulez, l'exemple dont on parlait il y a 2 minutes, quelqu'un qui coupe avec une maîtresse, illégitime évidemment, et bon, mais qui dit, ma maîtresse, elle était quand même douce, gentille, suave, alors que ma femme est un peu acariâtre, c'est un peu plus difficile. Cette maîtresse, quand même, était mignonne et je l'aimais bien et tout. Ben, ça, c'est pas un péché. Parce que l'homme, est, la nature est là. Qu'est-ce que vous pouvez pas ne pas. C'est comme quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai rencontré une jeune fille dans le métro, elle était ravissante. Monsieur l'abbé, j'ai commis un péché mortel. Ben, c'est ce que l'on, espèce d'imbécile. Vous n'avez pas commis un péché mortel, voyons. Monsieur l'abbé, elle était mignonne. C'est vrai qu'elle était mignonne ? Ben oui, elle était très mignonne. Et alors ? C'est un péché de reconnaître cette jeune fille en face de moi, là, est très mignonne. Bien sûr que non, ce n'est pas un péché. Le péché, ça va être de laisser des mauvais désirs venir à cause de l'image de cette jeune fille. Ça, c'est autre chose. Mais le bon Dieu ne vous demande pas de considérable. J'aime mon épouse de tout mon cœur. Donc, cette jolie fille que j'ai rencontrée dans le métro, monsieur l'abbé, je dois me convaincre qu'elle était laide comme un pou. Mais non, elle était très mignonne. Mais, je suis marié, je veux être fidèle à ma femme et fidèle au mon Dieu. Donc, les choses restent telles qu'elles sont. D'accord ?
Oui.
Alors, donc, passons maintenant donc à la page 88 sur le polycopier, juste au-dessus de la question 113, article 9. Donc, on répète les mêmes choses, donc tout a déjà été répété plusieurs fois par saint Thomas d'Aquin. Donc, dans la justification de l'impie, le libre arbitre déteste le péché, en même temps se tourne vers Dieu. Donc, les choses sont simultanées. Bon. Alors, le mouvement du libre arbitre vers Dieu précède naturellement le mouvement du libre arbitre contre le péché, puisqu'il est la cause et le motif. Est-ce que je peux utiliser mon libre arbitre contre le péché sans d'abord utiliser mon libre arbitre pour aimer le bon Dieu ? Ben, c'est pas possible. Parce que c'est parce que le bon Dieu rentre dans mon âme avec une grâce actuelle pour préparer mon libre arbitre à se mouvoir dans le bon sens que je peux détester le péché. Alors passons à l'article 9 qui est très important. Donc, je vais passer un peu plus de temps dans celui-là. Au moins pour terminer la question 113 aujourd'hui, je ne sais pas si je vais encore faire la question 114. Bon, on verra. Sinon, je terminerai la prochaine fois. Donc, la justification de l'impie, article 9 de la question 113 de la prima secondée, la justification de l'impie est-elle la plus grande œuvre de Dieu? Ça, c'est une question magnifique pour la méditation. Hein? Et il commence par une citation de Saint-Augustin qui est splendide. Et c'est une œuvre plus grande de faire d'un pécheur injuste que de créer le ciel et la terre. C'est une œuvre plus grande de faire d'un pécheur injuste que de créer le ciel et la terre. Et il ajoute, le ciel et la terre passeront, mais le salut et la justification des prédestinés demeureront à jamais. Donc imaginez ce que c'est déjà d'envoyer dans l'espace des milliers de planètes qui vont tourner à des vitesses ahurissantes sur des orbites très compliquées, sans jamais se rentrer dedans, avec un ordre extraordinaire. Bon, et bien tout ça, c'est rien à côté de la justification de l'impie. Imaginez la complexité d'une simple petite cellule, du noyau d'une cellule humaine, n'importe quel petit bout de peau qui est fait de cellules, à l'intérieur de ces cellules, il y a un noyau. Dans ces noyaux, il y a des chromosomes. Les chromosomes sont faits de séquences d'ADN avec des petits barreaux, une espèce d'échelle entortillée comme une pelote de laine, avec des bases qui peuvent se mettre que dans un certain sens. Et en fonction de la façon dont ces bases sont disposées, ben, tout va être prévu pour la physiologie de cette personne. Et bien, tout ça, qu'on est encore en train de découvrir actuellement en physiologie, en physique nucléaire, parce qu'on ne sait pas encore comment tout ça se passe vraiment, eh bien, c'est rien à côté de la justification d'un impie. Donc, quand une personne qui est en état de péché mortel vient auprès du prêtre, avec les bonnes dispositions, reçoit l'absolution, au moment où le prêtre lui dit, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, je vous pardonne vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, c'est un miracle qui ne se voit pas, mais qui est en soi plus grand que de créer le ciel et la terre. Donc, les miséricordes du Seigneur sont au-dessus de toutes ses œuvres. Donc, la miséricorde du bon Dieu est en soi plus grande que sa justice. On m'a beaucoup reproché, certaines personnes m'ont beaucoup reproché de parler tout le temps de la miséricorde. Je n'ai aucun regret de ça, je continuerai de le faire. Parce qu'il est très important aujourd'hui de parler de la miséricorde. Il faut parler du bon Dieu. Mais il faut beaucoup plus parler de sa miséricorde que parler de sa justice. Une fois qu'on a la miséricorde du bon Dieu, qu'on a compris la miséricorde du bon Dieu, cela entraînera la vertu de justice. Alors que l'inverse n'est pas toujours vrai. On peut voir la notion de la justice de Dieu et tomber dans le désespoir. Justement parce que notre âme est trop contaminée par le péché, on se décourage complètement. Ben non. Donc la justice est très importante. On ramène beaucoup plus facilement une âme vers le bon Dieu par la justice, par la miséricorde que par la justice. Moi, il m'arrive souvent d'expliquer ces choses-là à des personnes qui ne sont pas confessées pendant 10, 20, 30 ans. Ça arrive, hein. Et je ne sais pas pourquoi elle est ici, me téléphone, me dit, je veux te confesser. Bon, très bien, je ne vais pas lui demander son âge et son tour de taille. Hein. Je ne demande rien, vous aucune question, bienvenue. Et puis on essaie d'aider, et puis commence la confession. Ah, monsieur le péché, j'en ai 15 pages. Le bon Dieu vous aime. Mais mon Dieu, j'en ai 15 pages. Et alors, la confession, ça fait pour ça. Mais c'est énorme. Le bon Dieu aime plus un gros pécheur qu'un petit pécheur. Hein, mon Dieu, il est venu d'abord pour les gros péchés, là, il n'est pas venu pour sauver la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle pouvait être sauvée avec une marguerite tous les matins, puisqu'elle n'a jamais péché. Par contre, un gros pécheur, c'est une paire de manches. D'accord? Et plus on a péché, plus notre degré d'amour du bon Dieu doit augmenter, évidemment. Notre degré d'amour du bon Dieu, de charité à l'égard du bon Dieu, doit être proportionné à ce qu'il nous a donné. Hein, c'est l'histoire des... C'est l'histoire des, du maître de la maison qui donne, qui absout deux de ses serviteurs, un qui devait 50 euros, un qui devait 5 millions d'euros. Bon, mais il est évident que celui à qui il a pardonné une dette de 5 millions d'euros devrait avoir pour son maître beaucoup plus de reconnaissance que celui à qui il a été pardonné qu'une dette de 5 euros ou 50 euros. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Donc, Saint Thomas va utiliser des parties des psaumes, entre autres, du psaume 144, où il est dit « Les miséricordes du Seigneur sont au-dessus de toutes ses œuvres. » Et voilà une prière donc, on dit, qui est très belle. « Ô Dieu qui manifestait surtout votre puissance en épargnant le pécheur et en lui faisant miséricorde. » Donc Dieu manifeste plus sa puissance en épargnant le pécheur et en lui faisant miséricorde qu'en créant le ciel et la terre. C'est ce que dit saint Augustin. « C'est une œuvre plus grande de faire d'un pécheur injuste que de créer le ciel et la terre. » Donc, la justification de l'impie, qui a pour terme le bien éternel auquel Dieu nous fait participer, est une œuvre supérieure à celle de la création du ciel et de la terre, dont le terme est un bien mobile et passager. Si un impie devient juste, encore une fois, il recite saint Augustin, c'est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. Ça, il faut y penser. Le ciel et la terre passeront, mais le salut des prédestinés et leur justification demeureront à jamais. Ouais, il y a des textes magnifiques, c'est un des plus beaux articles de la Somme, je pense, là, l'article 9 de la question 113. Surtout, c'est à mon avis un article à lire après une confession, une grosse confession. Ou un article à lire avant une grosse confession. Si on voulait comparer la justification avec la glorification, dit saint Thomas, il faudrait dire qu'à considérer les choses absolument, le don de la gloire est plus grand que celui de la justification. Et que relativement à l'homme, le don de la grâce qui justifie l'impie l'emporte sur celui de la gloire qui béatifie le juste. Donc saint Thomas va jusqu'à dire le pardon des péchés est quelque chose de plus grand que la glorification des bienheureux. Il surpasse en effet beaucoup plus la dignité de l'impie qui méritait un châtiment que le don de la gloire ne surpasse la dignité du juste qui, par sa justification même, mérite la gloire. Il est difficile de décider si c'est une plus grande œuvre, dit saint Augustin, de créer les anges dans la justice que de justifier les impies. Certes, si la puissance est égale dans les deux cas, la miséricorde du moins apparaît plus grande dans la justification de l'impie. Et je me rappelle, Saint Raphaël nous avait expliqué ça plusieurs fois avec raison en disant que c'était quelque chose qui était tellement difficile à rentrer dans l'esprit des petits noirs quand il était en Afrique. Et il disait, la puissance de Dieu, pas de problème. La justice de Dieu, pas de problème. Que le bon Dieu envoie expédier en enfer tous ses ennemis, je n'ai absolument pas le petit noir de la brousse. Mais quand Monseigneur Lefebvre expliquait que le petit noir de la brousse, au petit noir de la brousse, que le bon Dieu pardonnait aux pécheurs repentants, alors là, ça ne passait pas du tout. Parce que pour eux, dans leur esprit, dans leur culture, si vous voulez, un roi qui pardonne, c'est un faible. C'est un faible. Donc pour eux, la notion, c'est le roi qui est assis sur un trône d'or. C'est pour ça que en Afrique, c'est sûr comme ça d'ailleurs, les rois doivent manifester, les rois des tribus doivent manifester leur puissance par une certaine ostentation extérieure, pour que ça passe. Et le roi qui est assis sur un trône d'or pour juger, qui condamne les mécréants, tout à fait normal. Qu'un roi pardonne, c'est quelque chose d'incompréhensible pour eux. Et donc le pardon des péchés par le bon Dieu est quelque chose qui est difficile à comprendre pour eux. Et donc il fallait beaucoup de patience pour la faire comprendre que Dieu est plus grand que le roi de la tribu, parce que justement il est capable de pardonner alors que le roi de la tribu n'est pas capable de le faire. D'accord? Donc cette belle phrase de saint Augustin, je la répète, il est difficile de décider si c'est une plus grande œuvre de créer les anges dans la justice que de justifier les impies. Si la puissance est égale dans les deux cas, la miséricorde du moins apparaît plus grande dans la justification de l'impie. Donc vous avez ça en bas de la page 88. Donc la justification de l'impie est la plus grande œuvre de Dieu. Donc le don de gloire en soi est plus grand que la miséricorde. La miséricorde, le pardon du péché. Cependant, d'une autre façon, ça dépend sous quel angle on le regarde, le pardon des péchés est plus grand que la gloire, que le don de la gloire, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est là où il faut vraiment méditer cet article 9 de la question 113, méditer pour comprendre la miséricorde infinie du bon Dieu à l'égard du pécheur repentant. Alors, des exemples dans lesquels il ressort, il y en a un pagaille. Hein. C'est David qui est pardonné, après sa chute avec Bethsabée, la femme du riz. C'est Sainte Marie-Madeleine qui est pardonnée. Le bon Dieu ne va pas lui demander combien de fois, avec qui, qu'est-ce que tu as fait de l'argent ? Non. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Allez et ne péchez plus, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Et elle s'est convertie d'un seul coup, hein, grâce du bon Dieu. C'est Saint Dismas, pas Saint Dismas, Saint Zachée, qui est monté sur le sycomore parce qu'il voudrait bien voir notre Seigneur, mais il peut tirer en taille, il ne peut pas le voir parce qu'il y a trop de foule, il ne voit plus rien. Alors il monte sur le sycomore, notre Seigneur Jésus-Christ passe en dessous du sycomore avec la foule, il lève les yeux, Zachée, aujourd'hui je viens manger chez toi. Et Zachée descend de son arbre, toute vitesse, va vite faire préparer par son épouse, Sainte Véronique, le repas, notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans cette maison. Et c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans la maison de Zachée, c'est la grâce sanctifiante qui rentre dans le cœur de Zachée. Zachée se convertit, sa femme était déjà plus ou moins, Zachée se convertit, il devient Saint Zachée. Et après, va partir avec, envoyé par Saint Pierre, c'est lui qui va aller après évangéliser Jachée va évangéliser une partie de la France, puisque son corps était détruit à la Révolution à Rocamadour. À Rocamadour, c'est là, au sommet du grand escalier de pierre de Rocamadour, il y a un tombeau, c'est là le tombeau de Jachée. Et sa femme, Sainte Véronique, est allée évangéliser la Gascogne. Elle est enterrée à Souillac-sur-Mer. Enfin, il y a une partie de ses ossements à Souillac-sur-Mer. Et donc, il faut méditer un petit peu de ces choses-là. Parce qu'il faut comprendre, quand j'ai prêché l'exercice, j'expliquais toujours en disant que en soi, Dieu aime plus un gros pécheur qu'un petit pécheur, parce que Dieu est obligé de manifester plus de miséricorde à l'égard du gros pécheur qu'à l'égard du petit pécheur. D'accord ? Alors, on continue d'avancer, on va terminer la question 113. Donc, justification de l'impie, est-elle une œuvre miraculeuse ? Ben, en soi, oui. En soi, oui. Il y a trois choses à remarquer. Première chose, dit saint Thomas, c'est la puissance divine qui peut seule opérer de telles œuvres. Donc, seul Dieu peut justifier un impie. En second lieu, il arrive que dans certaines œuvres miraculeuses, la forme dépasse la vertu naturelle de la matière à laquelle est appliquée, par exemple, la résurrection d'un mort. Bon. Troisièmement, il y a dans les œuvres miraculeuses une dérogation à la manière ordinaire de produire un effet. La justification de l'impie est donc miraculeuse tant qu'elle ne l'est pas. Bon, elle peut avoir été préparée de façon naturelle. Il y a des gens qui peuvent regretter naturellement leur péché. Bon, c'est un début. Bon, il y a des gens qui ont un regret naturel de leur péché. Il manque quelque chose. D'accord ? Il manque quelque chose. Mais, strictement parlant, sans la grâce du bon Dieu, eh bien, c'est pas possible d'avoir une contrition surnaturelle. Mais la contrition surnaturelle peut partir d'une contrition naturelle. La contrition naturelle, c'est quelqu'un qui regrette un péché. C'est l'exemple classique que je donnais dans les exercices, c'est une personne qui dit, monsieur l'abbé, j'ai un gros problème, je sais pas quoi, moi, un gros problème de je sais pas moi, de je dépense mon argent, par exemple, beaucoup trop à jouer dans les casinos. Alors, ma femme me fait la gueule tout le temps parce que je dépense tout l'argent du ménage là-dedans, elle a raison. Elle me fait la tête, elle ne veut plus me faire la cuisine. Elle essaie de plus me nourrir parce que je dépense tout l'argent dans les casinos de la ville. Le casino de la ville. Alors, personnellement, en disant, monsieur l'abbé, moi j'en ai marre parce que j'ai perdu 15 kilos depuis un mois, ça ne va plus, je ne mange plus rien, je dépéris, ma femme refuse de me faire la cuisine, donc j'ai décidé d'arrêter de jouer mon argent au casino pour pouvoir remanger normalement à la maison. Bon, est-ce que c'est nul ? Non, c'est pas nul, c'est déjà quelque chose. Bon, ça ne va pas tenir longtemps s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui se rajoute. Est-ce que c'est suffisant ? C'est ce qu'on appelle une contrition naturelle. Hein ? Est-ce que c'est suffisant pour aller se confesser ? Non. Il faut passer une contrition surnaturelle. Rappelez les conditions du Concile de Trente. Contrition doit être interne, surnaturelle, souveraine et surnaturelle. C'est très important. Alors, avançons un petit peu, on va essayer de avoir le temps de faire la question 114, je ne pense pas. Je voulais terminer aujourd'hui le primaire secondaire, mais je pense que c'est peut-être un peu beaucoup. Alors, si on a le temps de commencer un peu certaines choses. Donc il reste une dernière question dans la Somme Théologique de Saint Thomas, dans la primaire secondaire, sur le mérite, justement. Le mérite auprès de Dieu, le mérite. Donc il y a une question avec plusieurs sorties, donc je vais vous lire les titres. Donc l'homme peut-il mériter auprès de Dieu ? Peut-on sans la grâce mériter la vie éternelle ? L'homme dans l'état de grâce peut-il mériter la vie éternelle d'un mérite de décondignon ? J'expliquerai ce que c'est. La grâce est-elle le principe du mérite par la charité plutôt que par les autres vertus ? L'homme peut-il mériter pour lui-même la première grâce ? L'homme peut-il mériter pour un autre la première grâce ? L'homme peut-il mériter pour lui-même la grâce de relever de sa chute ? L'homme peut-il mériter l'accroissement de la grâce ou de la charité ? L'homme peut-il mériter la persévérance ? Les biens temporels sont-ils l'objet du mérite ? On voit que Saint Thomas suit un peu l'ordre qu'il a suivi déjà dans la question 104, la question 111, pardon, la question sur la grâce, question 109, la question 109 sur la grâce, vous voyez ? Alors, je vais plutôt prendre un cours de plus parce que sinon ça va être bâclé. Non, il faut que je garde les gens beaucoup trop longtemps. Donc, je préfère qu'on finisse la question 114 au prochain cours. Donc, il y aura un prochain cours jeudi prochain. On fera la question 114 et là, je devrais avoir le temps vraiment de terminer la prima secondae. Et nous attaquerons, si Dieu veut, la seconda secondae, deuxième partie de la somme, avec l'étude des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Donc on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit.
Nos saints anges gardiens,
veillez.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Amen.